radio.
Et bonsoir, bonsoir à tous. Désolé pour le petit souci technique qu'on vient d'avoir. Maintenant, tout est rétabli. Alors, je disais que je m'appelle Stéphane. J'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble pour cette 22e émission de ma radio. Les chroniqueurs sont là. Ils vous ont préparé de super rubriques. Ils sont chauds. Ça va être une super émission, à n'en pas douter. Et je propose tout de suite de commencer par la première rubrique. C'est l'invité du jour.
L'invité du jour.
Et donc ce soir, nous recevons Isabelle Roland. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc rédactrice en chef de France Bleu Belfort Montbéliard. Vous êtes venue pour nous parler un petit peu de votre métier et donc aussi de votre passion, parce que ça va de pair. Et j'aurais une première question, du coup, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter un peu qu'est-ce que c'est que ce rôle, ce métier de rédacteur en chef. En chef en radio.
En gros, c'est l'encadrement des journalistes. À France Bleu, Belfort, Montbéliard, il y en a 7. Un sur Montbéliard, 6 sur Belfort et un sportif. Et avec tout ça, il faut faire de l'information du lundi au dimanche, 365 jours. Et ça en fait beaucoup.
Ouais, je comprends, ouais, c'est sûr. Du coup, le fait d'être chef, rédactrice en chef, est-ce qu'au sein de l'équipe, je suppose que ça vous apporte des fonctions supplémentaires? Quelles sont-elles?
Beaucoup d'administratifs, de plus en plus d'administratifs. Non seulement on donne le ton de la matinale et de l'info en matinale, à savoir quel choix de sujet, qui interroger, qui inviter suivant l'actualité. Et puis c'est des tableaux de service à faire, c'est tout ce qu'il y a par derrière et qu'on ne voit pas et qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, notamment en ce moment, par rapport aux élections présidentielles qui arrivent. Le CSA nous a demandé des règles relativement strictes de comptage de temps de parole des candidats, des soutiens des candidats, et ça prend beaucoup, beaucoup de temps dans une journée.
Donc un gros travail de gestion qui est fait derrière et que le grand public ne voit pas forcément.
Non, et qui est obligatoire.
Eh ben, c'est sûr. Et du coup, quelles sont les qualités pour gérer une équipe comme ça?
Je dirais des qualités d'organisation. Parce qu'organiser une rédaction, encore une fois, qui travaille toute l'année, il faut donner les vacances, il faut donner les RTT, il faut donner tout ce qui va faire qu'une équipe va pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Des qualités humaines aussi, parce que dans une petite équipe, ça compte énormément. Les journalistes, généralement, sont des gens assez nerveux. Donc il faut savoir aussi calmer et gérer tout ça, les bonnes ententes.
Un rôle de psychologue, limite.
Aussi.
D'accord.
Juste pour la petite anecdote, si jamais vous venez à France Bleu Belfort Montbéliard, vous allez voir qu'il y a une verrière au-dessus.
Ouais.
Et donc, en plein été, on a le soleil sur la tête et sur la figure. Et donc, il faut mettre des parasols. Donc, il faut gérer ceux qui veulent les parasols, ceux qui ne veulent pas les parasols, ceux qui veulent un peu d'ombre, mais pas beaucoup. Et ça aussi, ça prend du temps.
Ah, c'est une belle anecdote, du coup. Et du coup, personnellement, qu'est-ce qui vous attire dans la radio? Qu'est-ce qui fait que c'est votre passion, finalement?
Alors la radio, je suis tombée dedans il y a 26 ans exactement, en ouvrant la porte d'RMC à Monaco, puisque je suis niçoise à la base. Et quand j'ai découvert toute la magie que ça pouvait avoir, j'ai plus jamais cherché à faire autre chose. Donc j'ai fait une école de journalisme et je n'ai fait que de la radio en fait.
D'accord.
À Radio France, dans le service public, parce que ça aussi c'était une notion qui était importante pour moi, cette notion de service public. Accompagner les gens tout simplement quand il neige, quand il pleut, quand il y a des grèves, il n'y a que le service public et de proximité, c'est-à-dire les France Bleu qui peuvent le faire de toute façon.
D'accord. Et pour les jeunes auditeurs qui rêveraient de faire ce métier, comment on fait alors?
Déjà, il faut avoir de la passion. Parce que si on n'est pas passionné, on a des journées, allez, on va dire, de 15-16 heures. Voilà.
Oui, d'accord.
C'est long si on n'est pas passionné. Si on n'est pas passionné, on n'arrive pas à se lever à 2 heures du matin. Parce qu'il faut savoir que quand le matin, vous écoutez les infos, les journalistes qui présentent, ils se lèvent à 2 heures du matin pour venir travailler et vous présenter les informations. Mais si on a de la passion, tout ça, ça ne compte pas et on arrive franchement à le faire. Il faut... de la passion, il faut de la curiosité, énormément. Il faut faire une école de journalisme, en tout cas les tenter. De la culture générale, beaucoup.
D'accord, donc très complet finalement, et ça demande une souplesse impressionnante.
Ouais.
Ouais, c'est bravo pour cette longévité, c'est vraiment
je
une belle carrière. quel projet vous avez pour l'avenir avec France Bleu ou même plus personnellement?
Pourquoi pas bouger dans une autre France bleue, puisque c'est un peu le but du jeu quand on rentre à Radio France en tout cas, puisque moi je suis rentrée comme simple CDD, comme on les appelle. J'ai fait 52 CDD sur le réseau France Bleu. D'accord. J'ai visité 32 locales pour des contrats de 2 jours à 9 mois.
Ah oui.
J'ai été intégrée à Cherbourg, après j'ai été mutée à Nice, après j'ai été voir à Metz, et maintenant depuis 4 ans je suis à Belfort. Donc pourquoi pas, quand on a le virus, continuer à travailler dans ce sens-là et aller voir ailleurs ce qui se passe. Et puis le numérique, puisque franchement le ouais. numérique c'est l'avenir, même si on fait de la radio. Et je pense qu'il y a pas mal de belles aventures à aller voir de ce côté-là.
Ben, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un de passionné, d'hyper motivé dans son travail et on a appris beaucoup de choses, donc je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, avec plaisir.
Et ben, c'était vraiment un plaisir et tout de suite on enchaîne avec une petite page de musique. The troubles of the world, soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, the troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Et de retour sur ma radio, on vient de s'écouter Trouble of the World de Mahom Dub, désolé pour l'accent. Et tout de suite, on accueille Gaspard pour l'émission ciné.
L'émission ciné.
Bonjour à tous et bienvenue dans
CinéCheck,
votre émission hebdomadaire des meilleures séries, films et animés jamais inventés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de briser la limite que je m'étais imposée, qui était celle des sorties en salle et en DVD de vos films préférés. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui promis, pas de top 3 ou de top 5 des spoilers. Vous n'avez donc aucune raison de fuir. C'est bon, vous pouvez rester. Cependant, je pense conserver les formats des tops parce que ça me convient plutôt pas mal. Donc c'est donc avec plaisir qu'on s'attaque aujourd'hui au top 4 des meilleurs films de Danny Moon.
Non,
je rigole.
On a eu très très peur.
Aujourd'hui, on s'attaque au top 4 des meilleurs nanars jamais créés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un nanar, c'est un film qui a été réalisé, écrit, tourné, et qui est sorti en salle avec tout le sérieux du monde, mais qui est tellement mauvais qu'il en devient hilarant.
Okay.
La petite subtilité du nanar réside en effet dans le pas fait exprès. Là est donc tout le problème de discerner un nanar, un film qui se veut nanardesque, dès le début de sa réalisation. Car oui, un film bien mal fait, ça peut très bien marcher. Ce top 4 ira donc du nanar qui l'est moins à celui qui l'est le plus. Et on attaque tout de suite avec, en quatrième position, Mega Piranha.
Wow.
Tout d'abord, on peut se demander si la personne qui s'occupait de la colorimétrie était bourrée, car tout le film semble avoir été jauni. Peut-être pour nous annoncer d'où sort directement ce film. En bref, le scénario de ce film se résume à peu de choses. Des scientifiques américains qui ont donné naissance à des piranhas immenses. Des piranhas immenses qui peuvent voler. Ce qui rend la tâche de John Fitch, un agent de terrain américain, bien compliquée. Il n'y a rien de plus à dire, de toute façon, je vous conseille de ne pas aller le voir. En troisième position, on retrouve Hitman le Cobra, sorti en 1987. Comment parler de nanar sans parler de ce film, d'où la célébrité réplique « Philippe, viens ici que je te bute enculé ». Le synopsis de ce film mérite à lui seul une chronique, tant il est à la fois très simple, mais très compliqué à expliquer. Petite anecdote, en dehors de ça, le film qui est censé se dérouler principalement dans une jungle a été tourné dans un jardin communal.
Ah ouais.
En deuxième place revient évidemment à la série Resident Evil, dont le succès ne vient pas de la qualité de la saga, mais de la what the fuckité de celle-ci. Certains diront que la série est loin d'être un nanar et que les scénaristes ont juste beaucoup d'idées à revendre, mais pour moi, quand on se permet de créer des dragons zombies, de faire conduire des motos par des morts-vivants nazis, et simplement d'appeler ces films Afterlife, Apocalypse ou encore Rétribution 3D, on peut parler de nanar, puisque sur le coup, on oscille vraiment entre le film nul et le film bien du fait qu'il soit nanardesque. C'est donc bien évidemment à la première position de ce top qu'on retrouve le célébrissime Sharknado, qui ne devrait à mes yeux ne pas être en cette première position, mais j'avais pas beaucoup d'idées, du simple fait qu'une suite a été faite et que celle-ci s'appuyait sur le succès nanardesque du premier. Et donc un film qui se veut dans sa réalisation nanardesque ne l'est pas. Pour info, on pourrait penser que ce film est directement issu de l'imagination d'un bachelier de L, mais pas du tout. En effet, Sharknado retrace l'histoire des habitants d'une ville où une énorme tornade s'abat. Cependant, problème, celle-ci est remplie d'une armée de requins tueurs assuiffés de sang. Super scénario.
Oh là là.
Voilà pour moi, c'est tout. Je laisse l'antenne à notre animateur du jour, Stéphane.
Bah merci Nanar, je vais t'appeler comme ça maintenant, ça me fait beaucoup rire. Du coup, on enchaîne avec une autre page musique. We'll be right back.
Radio.
On vient de s'écouter Electropuce, c'était vraiment génial. Et là, on enchaîne avec une chronique que j'aime beaucoup. C'est présenté par Guillaume, ça s'appelle La chronique du geek.
Eh bien, bonjour mon cher Stéphane, bonjour
Salut
à tous.
Guillaume.
Alors aujourd'hui, dans la chronique du Geek, nous allons parler technique. Alors technique d'un point de vue cinéma, je parle, pour vos courts-métrages notamment. Alors yeah. Stéphane, toi qui travailles le son, je pense que tu vas être intéressé puisque nous allons parler... Oups, caméra.
C'est pas, oh non, c'est pas vraiment ce que tu
préfères.
Tu
peux pas me faire ça, j'ai eu un arrêt cardiaque.
Je suis désolé. Alors je crois savoir que tu fais un petit peu de court-métrage, non?
Ouais, ça m'arrive avec des amis autour de la table.
D'accord. Moi, tu nous en diras plus une prochaine fois peut-être.
Ouais, une prochaine fois on en parlera.
Alors sois bien attentif car nous allons parler de caméras de qualité cinéma, mais à un prix abordable. Ah. Alors plus précisément, on va parler d'appareils photo de type réflexe numérique qui sont notamment très utilisés par les vidéastes amateurs comme tu peux l'utiliser peut-être, ou même par les petites productions indépendantes. Alors avant de parler des nouveautés à ce sujet, voyons un peu pourquoi les réflexes numériques, aussi appelés DSLR, sont-ils aussi populaires pour la réalisation de courts-métrages et autres fictions ? Bien tout simplement parce que ces appareils permettent d'avoir une image avec un cachet cinéma, avec une profondeur de champ très réduite grâce à la taille du capteur notamment, mais aussi avec la possibilité de changer d'objectif selon les focales souhaitées par le réalisateur et pour avoir aussi les plus grandes ouvertures. Ce sont aussi des appareils qui offrent une possibilité de travailler en full manuel et d'avoir le total contrôle sur l'image, et avec de nombreuses fonctionnalités et assistants pour dédiés à la vidéo.
Impressionnant, quand tu dis abordable, c'est à peu près quelle échelle de prix ?
Eh bien, entre 500 et 2000 euros, donc selon la production, bien entendu. Mais on va voir ça tout de suite, justement, avec les marques les plus populaires qui sont donc Canon, avec notamment...
Allez, toi aussi, tu me fais un top ce soir ?
Un petit top, allez, top 3 des meilleures...
Des meilleures marques de réflexes ?
Ah bah, pour moi, j'en ai 3 en tête, donc c'est Canon.
Canon, un classique.
Canon classique, qui propose notamment un 700D, par exemple, qui coûte 500 euros avec un objectif de base en 18-55mm. Et ils ont aussi donc très répandu 5D Mark III, mais qui est réservé aux professionnels avec un prix de près de 3000 euros.
Après, si on a des sous, hein, on peut s'inventer professionnel. Hein.
On peut s'inventer professionnel. C'est pas le matériel qui fait le professionnel.
Ah, c'est beau cette phrase.
C'est beau. Mais attends, je te réserve une petite phrase à la fin aussi.
Ah.
On retrouve aussi la série A7 de Sony qui propose des capteurs plein format, donc en 24-36 pour 1000 euros, à partir de 1000 euros. Et puis surtout, la marque que je préfère et qui me fait tant rêver, c'est les Lumix de Panasonic, les GH.
D'accord.
Qui sont des appareils de type réflexe hybride, mais qui ont une qualité vidéo vraiment impressionnante et un cachet très cinéma, justement. Et donc Panasonic, ils ont annoncé le GH5 pour cette année, donc il va sortir au printemps. Ouais. Et donc il va sortir pour 2000 euros, donc c'est pas réservé aux amateurs débutants. Et pour 2000 euros, autant dire que ça vend du rêve. Et on va dire une qualité cinéma qui devient accessible pour les productions.
Est-ce que tu vas mettre des sous dans ta tirelire?
Je pense que je vais économiser, mais plutôt pour le GH4 justement qui va baisser de prix.
Le GH4, ok.
Ouais, l'ancienne version qui était déjà pas mal. Mais là, le GH5, pour te donner quelques specs, c'est enregistrement 4K en 60 images par seconde. Autant dire que c'est une exclusivité pour ce type de caméra. C'est du Full HD à 180 images par seconde, et autant dire que c'est pas la même qualité qu'un smartphone. Enregistrement donc en 4K ou en Full HD jusqu'à 400 mégabits par seconde. C'est un débit qui est juste ouf quand on pense que les débits binaires actuels sur les caméscopes sont à peu près à 25-28 mégabits. Ouais. Et enregistrement au passage, pour les plus techniciens d'entre vous, en 4-2-2-2 10 bits en interne, donc ce qui est réservé normalement aux caméras de cinéma. Bon, après je vais passer sur les autres fonctionnalités, mais on a au passage de la stabilisation sur 5 axes, boîtier tropicalisé, tous les assistants de picking, de zebra, etc. Et la possibilité pour toi, je le dis, d'avoir une prise casque et une prise micro pour pouvoir faire le son.
Quand tu dis prise micro, c'est une Orbase XLR ?
C'est du jack, mais tu as un module à 300 euros, un module
à 300
XLR.
Euros. À 300 euros. Un module à 300 euros, donc
mais
c'est bon.
Pour les professionnels qui travaillent en XLR, donc tu as un module à 300 euros et puis tu peux avoir le retour casque en même temps. Donc voilà.
Ça vend du rêve.
Donc tout ça dans un petit boîtier de type réflexe pour à peine 2000 euros, et ce qui vous laisse, pourquoi pas, la possibilité d'écrire l'histoire.
Waouh, c'est beau, c'est vraiment beau. Eh bien, on a appris beaucoup de choses, et ça vend vraiment du rêve, papa, maman, si vous m'écoutez. Voilà. du coup, merci beaucoup, Guillaume.
Merci à toi, merci à vous.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ma radio.
Et tout de suite, c'est l'émission décalée avec Romain. Salut Romain, c'est parti pour l'instant décalé.
Bonsoir Stéphane et bonsoir chers auditeurs. Comme annoncé la semaine dernière, c'est bel et bien de fruits dont il sera question cette semaine. Laissez-vous aller, fermez les yeux et sentez la recette de la salade de fruits coquine vous envahir. Pour commencer, vous allez disposer sur votre table de chevet tous les ingrédients dont vous aurez besoin, allant de la banane jusqu'au litchi. Ne partez pas messieurs, le plus douloureux c'est l'enveloppe, même une fois décortiquée, ça glisse tout seul.
Mais Romain, c'est grand public là, y'a trop de métaphores, tu peux continuer, vas-y.
Merci. A l'aide d'une lame effilée et aiguisée, il vous suffira de fendre en deux les deux fraises, dont le jus s'échappera de cette enveloppe en une giclée soudaine et fluide. L'étape suivante sera de décaloter la banane sans rompre le frein. Pour les plus gourmands d'entre vous, vous pourrez tout à fait ajouter des mandarines. L'avantage, c'est qu'elles sont déjà pré-taillées. A l'aide d'un doigt baladeur, ou peut-être deux, il s'agira de venir l'enfoncer délicatement, toujours dans le respect des deux quartiers, afin de les séparer et de les enjamber sur le lit avec le reste du fruit. Mon secret, c'est de rajouter des morceaux de Granny Smith. Alors, je vous vois venir. Oui, c'est acide. Oui, les Granny, ça peut faire peur. Mais comme on dit, c'est souvent avec les vieilles pommes qu'on fait les meilleurs jus. Et enfin, si les poils ne vous gênent pas, un kiwi assez mou apportera de la couleur, de l'érotisme et de l'exotisme. C'était tout pour cette recette.
C'est magnifique, je crois que je vais aller tester ça juste après cette page musique qu'on s'écoute tout de suite.
Merci.
Et du coup, tout de suite... Ok, super, c'était Guillaume avec son titre super magique. Guigui, merci, c'était vraiment un super titre, on a adoré. Voilà. Et du coup, on accueille tout de suite Zach et Alexis pour la chronique Game Over.
Game Over. Mesdames, messieurs et gamers, c'est l'heure de Game Over. Bonsoir tout le monde, ce soir je suis encore en compagnie d'Alexis. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Zachary.
Et on va parler de quelque chose qui te tient particulièrement à cœur.
Exactement, alors cette année j'avais deux objectifs. Parler d'une adaptation vidéoludique de mes deux licences préférées. Alors on a parlé il y a les deux émissions des jeux Arkham de Batman, et il me reste plus qu'à traiter mon autre licence favorite, le Seigneur des Anneaux. Alors on ne va pas présenter le très bon MMORPG Le Seigneur des Anneaux Online, que je recommande tout de même à tous les fans de l'univers, mais un jeu un peu plus récent, Middle-Earth Shadow of Mordor.
Ce jeu est développé par Monolith, et est sorti en 2014. Se classant dans le genre action-aventure, il vous donnera une impression de familiarité dès la prise en main. Cela est dû au gameplay qui se rapproche beaucoup d'un Assassin's Creed ou d'un Batman Arkham.
Bien joué la référence.
Je sais. Le gameplay est, pour les novices qui nous écoutent, l'ensemble des mécaniques du jeu. Contrôle, interaction, manière d'évoluer dans le jeu, etc. Cependant, la nouveauté se trouvera du côté de l'histoire, car elle a su s'emparer du matériau de base et créer une histoire inédite dans le respect total du monde d'Arda, la planète sur laquelle se trouve le continent de la Terre du Milieu.
Alors vous incarnerez Talion, un rôdeur qui garde la Porte Noire jusqu'au jour où Sauron retourne au Mordor et envahit les lieux à nouveau. Alors ces servants tueront sous vos yeux votre famille avant de vous égorger.
Très joyeux.
Je sais. Sauf que vous vous réveillez plus tard, possédé par l'âme d'un elfe. Comment est-ce possible? Pourquoi êtes-vous encore en vie? Qui est cet elfe? Tant de questions se posent à vous, mais votre soif de vengeance vous poussera à aller tuer de l'orque pour remonter jusqu'aux sbires de Sauron et venger votre famille. Bon, après, l'autre nouveauté de ce titre aussi est le Nemesis System.
Qu'est-ce que le Nemesis System, Alexis ?
Eh ben, c'est le système qui donne la faculté à vos ennemis orques de vous reconnaître. C'est, si vous le mettez hors d'état de nuire et qu'il survit, il va vouloir se venger.
C'est ça. En revanche, s'il vous a tué dans le passé, il va se vanter et se moquer de vous. C'est ce qui rend ce jeu unique. Les orques ont chacun leurs faiblesses et points forts, et il faudra faire preuve de tactique et de patience pour arriver à les tuer. Si vous avez rêvé d'arpenter les terres désertes du Mordor, ou si vous avez une dent contre les orques, ce jeu est fait pour vous. Middle-Earth Shadow of Mordor existe sur toutes les plateformes modernes, PC, PS4 et Xbox One, en édition Game of the Year, donc jeu de l'année avec quelques bonus, et aussi en édition normale sur les plateformes citées précédemment, ainsi que PS3 et Xbox 360.
Voilà, donc pour les bourrins ou... pour les gens un peu plus subtils, ce jeu arrivera à satisfaire tout le monde. Alors, je vous dis au revoir, ou plutôt, comme diraient les elfes, Queer Vie.
À la prochaine.
Ah, super, c'était génial. Moi, j'ai une petite question avant. Est-ce que vous me conseillez de jouer auquel ? C'est lequel le meilleur, votre préféré ?
De tous les jeux qui existent ?
Bah, des Assassin's Creed.
Ah. Assassin's Creed, j'en sais rien. J'ai joué à celui sur les pirates, et vachement cool, Black Flag.
Ok.
Mais faut aimer, en fait, faut aimer l'époque et l'univers, et puis.
D'accord. Et ben avec ça, on va pas réviser beaucoup. Allez, merci les gars. Tout de suite, une petite page musique. Et du coup, on s'écoute Kick Out the Jams de MC5. Allez, c'est parti et à tout à l'heure. Doesn't move, got hazing now, baby.
Ah, mais que ça fait du bien, là, on est déchaîné tout le studio et debout, tout le monde a dansé, c'était vraiment ouf. Ah merci, ça fait plaisir, un bon son comme ça. Ah là, pff, ça fait vraiment plaisir.
Ma radio.
Allez, après un petit instant un peu plus énergique, on retourne à un point un peu plus sérieux. On reçoit Com pour le point info.
Maintenant, les infos.
On commence avec Hollywood qui prépare un film sur les attentats parisiens du 13 novembre. Ce film s'appelle Violent Delight et sera réalisé par l'américaine Rachel Colombo. Le tournage commencera cet été avec des scènes shootées à Paris comme à Los Angeles. Il est à préciser que le film ne retracera pas réellement les attentats du Bataclan mais s'en inspire largement. Le scénario de Violent Delight racontera une attaque terroriste à Paris de deux points de vue différents, soit celui d'un groupe de punk rock américain et celui d'un jeune homme immigré. Certains trouvent inadmissible une adaptation de ces événements à l'écran, mais ce sera la première fois que ce drame est porté à l'affiche. En Irak, à Bagdad, un attentat à la voiture piégée a eu lieu dans un marché de la ville. L'attentat est revendiqué par l'organisation État islamique et a causé la mort de 39 personnes et 25 blessés selon la police locale. On peut remarquer une certaine recrudescence des attentats dans Bagdad avec notamment plusieurs séries d'attentats suicides depuis janvier. Cette hausse est particulièrement sensible depuis l'offensive de la capitale irakienne pour reconquérir Mossoul, deuxième ville du pays et important bastion de l'organisation extrémiste. Aux États-Unis, une étude révèle une statistique inédite pour un pays développé. En effet, il se trouve que le taux de mortalité chez les jeunes Américains suit une inquiétante hausse. L'origine de ce bond de mortalité est floue mais serait concentrée sur des overdoses et sur l'alcoolisme, mais aussi sur une quantité importante d'homicides comme de suicides. Pour les chiffres, la fameuse mortalité augmente de 2% à 5% tous les ans depuis 1999 et son ampleur se rend comparable au sommet de l'épidémie de sida aux États-Unis. Pour terminer aux États-Unis, une nouvelle nuit de manifestation prônant la démission du président Donald Trump a eu lieu. Depuis l'élection de celui-ci le 8 novembre, ce type de manifestations spontanées se sont multipliées dans tout le pays et ne semblent pas décroître au fil du temps. En Italie, des séismes se font ressentir depuis près de 6 mois. Parmi eux, 7 se distinguent par leur puissance qui a causé de lourds dégâts en frappant le centre du pays, détruisant même plusieurs villages. Hier, la protection civile italienne a estimé que les dégâts ont causé plus de 23 milliards d'euros. Elle a donc demandé à Bruxelles d'activer les fonds de solidarité de l'Union européenne. On termine sur une avalanche meurtrière à Tignes qui a eu lieu lundi dernier dans la soirée. Le bilan définitif donné par les secouristes serait le décès de 4 skieurs, un moniteur ainsi que 3 clients.
Waouh, les tristes nouvelles, c'est dingue.
Très joyeux.
T'as cassé l'ambiance. Ah non, mais vraiment, c'est important de le savoir, mais c'est des tristes nouvelles. Du coup, je propose qu'on passe à quelque chose d'un peu plus attractif avec Jules qui va nous parler de sport et ensuite de revue de presse. Aujourd'hui, double chronique.
C'est ça, je remplace Romain, donc bonjour à toi Stéphane.
Salut Jules.
Bonjour à toutes et à tous, on débute ce tour des sports avec une page...
Football.
Ah, il suivait presque pas Stéphane.
Ah, presque.
Et la Champions League, et on va commencer par évoquer le match qui fait parler, c'est le match PSG-Barça.
Ah.
Épatant, impressionnant de justesse technique, le PSG a réalisé un véritable exploit en écrasant le FC Barcelone 4-0 pour ce 8e de finale aller. Le PSG a signé la meilleure prestation de la saison en appliquant les préceptes chers à Unai Emery, agressivité, pressing et projection rapide vers l'avant. La première période réalisée par le champion de France a d'ailleurs constitué un véritable chef-d'œuvre en la matière. L'anniversaire de Di Maria et de Cavani ont été réussis car le premier a scoré deux fois, dont une fois sur coup franc, tandis que le deuxième a aggravé le score d'une reprise du droit pour fêter dignement ses 30 ans. Toujours invaincu cette saison, le PSG a remporté un succès symbolique, l'année peut-être où on s'y attendait le moins. En extase devant cette partition sublime, les supporters parisiens pouvaient chanter car leur équipe a pratiquement les deux pieds en quart de finale après avoir terrassé l'un des plus grands.
Mais c'est dingue, c'est un score vraiment impressionnant. Est-ce que tu penses qu'au match retour, ça va être la même chose ?
Je regarde pas forcément beaucoup le foot, mais...
Ah, comme moi. Alors, qu'est-ce qu'ont donné les autres huitièmes de finale ?
Le Bayern de Munich fait exploser Arsenal 5-1 pendant que le Real de Madrid s'impose 3-1 face à Naples après un match difficile.
Il n'y a pas eu que du foot.
En effet, en ce moment, le Cirque Blanc se réunit à Saint-Moritz pour la Coupe du Monde de ski alpin et la France qui a remporté 2 médailles avant les 3 dernières courses. Et ces 2 médailles sont dans le plus beau des métals, je parle bien sûr de l'or. Une première médaille en équipe après avoir battu la Russie, la Norvège, la Suède et en finale la Slovaquie durant le slalom parallèle. C'est donc Alexis Pinturo, Mathieu Fèvre, Adeline Beaumunier et Tessa Worley qui partiront en or de ces championnats du monde. Mais aujourd'hui, Tessa Worley a décidé de doubler la mise en remportant le slalom géant devant Mikaela Shiffrin. C'est le 2e titre pour la skieuse du Grand Bornand dans la discipline après son titre en 2013.
C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe pour ces championnats du monde qui étaient pourtant très mal partis. Et on suit une très belle équipe de France avec un beau ski. Et en parlant du ski, je vais parler aussi un peu du biathlon. Qu'en est-il de Martin Fourcade, le champion national ?
En effet, en ce moment, c'est aussi les mondiaux de biathlon et le roi Martin Fourcade a décroché son 10e titre mondial dimanche dans la poursuite grâce à une entame parfaite pendant que ses deux rivaux loupaient la cible dès le premier tir couché. Il a aussi décroché aujourd'hui la médaille de bronze sur le 20 km et devra donc attendre la mass start pour espérer égaler le grand Ole Einar Bjørndalen, auteur de 12 victoires en une saison et 11 titres de champion du monde. Cela fait donc 4 médailles pour le français. Voilà, c'est fini pour le tour des sports.
Oh, c'était vraiment impressionnant. À la semaine prochaine, ce sera Romain. Et oui, du coup, ça. On continue avec toi. Ta vraie rubrique, c'est la revue de presse.
La revue de presse.
Donc voilà, me revoilà. Bonjour à toutes et à tous pour ceux qui sont arrivés entre-temps.
Bonjour Jules, ça va ?
Rebonjour Stéphane. D'ailleurs, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu suis un peu l'actualité du moment ?
J'adore, ouais.
Et alors, qu'est-ce que l'actualité du moment ?
L'actualité du moment, il y a Théo de Aulnay-sous-Bois.
C'est ça.
Cette affaire, c'est de ça que tu voulais parler ?
On va en parler, mais avant, l'affaire Fillon qui diminue en intensité mais se fait presque oublier. Mais le journal du dimanche propose dans son numéro de cette semaine une enquête sur ce qu'il titre comme étant le mystère Fillon. Ouais. Et donc, comme tu le disais, on va parler de l'affaire Théo, parce que l'actualité de la semaine dernière, c'est bien sûr l'affaire Théo et les violences policières qui reviennent sur le devant de la scène. Oh. On la retrouve donc à la une du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France, avec une photo du président au chevet du jeune garçon. Mais encore mieux que l'affaire Théo ou Fillon, est-ce que tu sais ce qui agite les médias depuis ces 2 derniers jours ?
Bah, j'aurais dit les championnats du monde de ski, moi c'est ce qui m'agite. Hein.
Malheureusement pas assez, c'est le foot bien sûr et je vous en parlais dans la chronique sport. Le PSG s'imposait 4-0 contre Barcelone, l'équipe y consacre 2 numéros ainsi que Le Parisien. Cela nous a donc permis de découvrir que la victoire n'était pas réservée qu'aux handballeurs.
Donc c'est si exceptionnel que ça de gagner contre le Barça ?
Bah de gagner tout court il paraît. Hein.
De gagner tout court, ah, le PSG ça risque de débrouiller bien.
C'est ça. Sinon, le
ils
débat...
ont des sous.
On va dire ça. Sinon, le débat du week-end dernier est la suppression des feux rouges, comme le titre Le Parisien, où après quelques expérimentations, les résultats sont surprenants. Une enquête à lire dans Le Parisien de lundi matin.
Dans suppression des feux rouges ?
Oui, c'est un peu bizarre, mais apparemment les résultats sont plutôt concluants.
Bon, de toute façon, à Paris, c'est comme s'il n'y en avait déjà pas, donc bon, là, c'est la même chose. D'accord, bah vas-y, continue.
Et donc je vais parler d'un journal cette semaine, Cinémensuel, donc qui est un journal satirique et sans publicité, il faut souligner. Qui paraît donc tous les mercredis de chaque mois, créé par Ciné après l'arrêt de Ciné Hebdo en avril 2010 pour raisons financières. On le retrouve cette semaine avec une magnifique une de Donald Trump.
Magnifique. Allez, vas-y, enchaîne.
Personnellement, j'aime beaucoup ce journal de par la multitude de sujets qu'il traite ainsi que ses dessins souvent très drôles. Je vous le recommande donc vivement et surtout au vu de son prix, 5,50€ seulement. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu l'acheter encore cette semaine, mais je te l'offrirai demain.
J'ai pas eu mon journal ?
Non, tu l'as offert la semaine dernière, mais
je
toi, t'en auras pas.
Bon, bah, d'accord, je te parle plus. Ça finit ?
Non,
c'est bon ?
Bah non, je voulais te demander
si t'avais regardé. Plus.
Je voulais te demander si t'avais regardé la télévision dimanche soir.
Non, je regarde pas la télé, c'est.
C'est triste pour quelqu'un d'audiovisuel, mais bon, le grand gagnant de dimanche soir, c'est TF1 avec une énième diffusion des Bronzés Fonds du Ski devant 8 millions de fans, mais pas toi.
Ouais, bah, ça m'a pas empêché de manger une bonne raclette. Hein.
Et sinon, un très bon score aussi pour France 2 avec le match de l'équipe de France qui a battu l'Écosse dimanche après-midi devant 5 millions de téléspectateurs. A noter aussi le record d'audience de l'émission Quotidien avec 1,8 million de téléspectateurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci Stéphane.
Merci Jules. tout de suite, une page musique. Ah oui, parce que ça nous avait manqué. Allez, c'est parti. Et on s'écoute. Moses and the Firstborn. Et le titre est écrit tout petit. I gonna some, c'est parti.
Same people, same hearts, same social reach.
tarts. I could have drowned in your lies. Your body felt just like mine. Give me some, give me some, give me some. Could you please turn off the lights? It's better if these things happen at night. Already I've seen more than I'd like to show. I sense a distance and I know it will grow. But now you act so confused. I didn't play by your rules. Spill me out like little food. I have a mouth full of food. Give me some. Give me some.
Super musique, c'était vraiment génial. Et tout de suite, l'horoscope.
L'horoscope.
Alors, l'horoscope avec les deux plus belles filles du BTS, Marjorie et Lucie. Salut les filles.
Salut Stéphane. Merci.
Allez-y.
Donc Marjorie, je te laisse commencer avec Bélier.
Alors, Bélier, si vous avez eu la chance de fêter la Saint-Valentin, j'espère que vous avez gardé des photos. Parce que c'est le désert relationnel qui vous attend ces prochains temps. En ce jeudi 16 février, si vous en êtes déjà à manger des pâtes, du fromage et du pesto, vous devriez jouer au loto. Au pire, si vous perdez, il vous restera toujours les pâtes.
C'est bon les pâtes?
Ouais, mais c'est meilleur avec du pesto et du fromage.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on continue avec Taureau.
Alors, malgré le fait que vos penchants sadomaso ont été assouvis avec la sortie cette semaine de 50 nuances plus sombres, il semblerait que ce soit pas demain la veille que vous allez réussir à trouver la personne avec qui les partager. La bonne nouvelle, c'est que sans atteindre le niveau de classe de notre cher Christian, vous allez peut-être avoir sa chance au niveau de la fortune.
Putain. C'est bien ça.
Et il n'y a plus qu'un respect. Hein, ouais. Ça, maintenant, on parle de sadomasochisme à l'antenne.
Ouais, on parle de fortune.
Allez, allez, enchaîne.
C'est très bien. Continue avec Gémeaux, pardon.
Alors, professionnellement, tout vous sourit. Vos rêves vont devenir réalité. Évitez juste de devenir flic, ils n'ont pas vraiment le vent en poupe ces derniers temps. Niveau santé, plus d'excuses pour tenir vos résolutions de la nouvelle année de vous mettre à la course à pied. Il fait beau et les tapis de course sont en promo.
Waouh, ça donne super envie. On continue avec Cancer, et je rappelle, c'est nos deux signes.
Avec le nombre de bonnes séries qui sort en ce début d'année, arrêtez de vous faire violence. Sortez le plaid et la lampe torche et lancez le nouvel épisode de Walking Dead. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, le nouvel épisode de la deuxième moitié de la septième saison est sorti dimanche.
Tu spoil pas, hein?
Non, j'irai
moi,
rien
je regarde
plus.
Pas.
Oh.
Bah oui, désolé.
Casse ta rubrique.
Ouais, désolé.
On devrait la faire sortir.
Pardon, je peux m'en aller. Hein. On continue avec Lyon.
Un certain jour de 1979, Monsieur Michel Blanc a dit... Tu vois Bernard, toi et moi, on a un peu le même problème. On peut pas tout miser sur notre physique. Enfin, surtout toi. Alors si j'ai un bon conseil à te donner, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, allez, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, même si vous vous appelez pas Bernard, je vous conseille de vraiment suivre ce qu'il dit.
Ce soir, vous êtes fan des bronzés.
On n'a pas fait exprès.
c'est son délire. Hein. Moi, je participe pas.
Hein. Moi, j'adore.
Chacun son truc. Bon, on finit avec... Non, on finit pas du tout. On continue avec Vierge, pardon.
On peut plus, elle veut partir.
J'en ai marre.
Alors, Vierge, si vous êtes un peu stressée en ce moment, pensez à colorier des mandalas. J'ai lu quelque part que c'était bon pour le cerveau gauche, ou peut-être le droit. Sinon, vous pouvez cuisiner en suivant un épisode des recettes pompettes. À défaut de savoir cuisiner, ça vous donnera l'occasion de picoler. En plus, je fais des rimes.
Oh, c'est beau. Si. Merci Marjorie. Oh,
voilà, c'était tout pour ma partie. Alors Lulu, qu'est-ce que tu penses des balances?
Alors, c'est moi ça. Fais gaffe.
Hein. Bah, tu prends cher. si vous êtes mariés, attendez-vous à une deuxième lune de miel.
Moi, ça va, je suis tranquille.
Petit coquin.
J'aurais pu avoir une deuxième lune de miel quand
c'est
même.
Vrai. C'est à tout souhaiter. Si vous avez un choix financier important à faire, vérifiez les aboutissants de l'affaire en question. Point de vue santé, aucune planète ne vous influence. Pour le travail, c'est le moment de reprendre les études.
Ah, d'accord.
Bon. Scorpion.
Le soleil va protéger votre vie, les dettes sont effacées. Si vous buvez trop et mangez n'importe quoi, même Jupiter ne pourra pas éviter la gueule de bois et les crises de foie. Votre situation sera... Votre citation, pardon. Il y a des redites pour l'oreille et pour l'esprit, il n'y en a point pour le cœur. Débarrassez, faites ce que vous voulez, quoi. Bref.
Ouais, c'est cool, c'est sympa, c'est comme
si tu l'as compris, c'est
on
bien.
On fait le ménage, quoi.
Ouais, absolument. Ah, ok.
Sagittaire.
Si vous êtes célibataire, vous aurez plusieurs occasions d'aventures prometteuses ou pas. Santé, méfiez-vous de la fatigue. Le tabac et l'alcool masquent temporairement la baisse et le tonus.
La baisse.
La baisse.
La baisse, hein, la baisse. La baisse. Hein. Allez.
Attendez, je relis. Masque temporairement la.
Non, bah, sûrement la baisse de. Il y a baisse de tension. Enfin, c'est la pas bon de... pour vous. On vous le dit chaque semaine. Ouais, d'ailleurs, voilà. Le tabac, c'est mal. L'alcool, ça va.
Ça va.
L'alcool,
avec
ça
modération
va. Non, ou pas.
Bon, je connais Maud, mais pas Ration.
Ouais, voilà.
Allez, on enchaîne. Putain, j'en ai marre.
Capricorne.
Ah, je n'ai plus de connexion avec les astres. Je suis en edge. Oh, je suis désolée, les gars. Bon, passons.
Et Verseau, alors
hein. Verseau, en amour, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Au travail, c'est le moment de montrer qui vous êtes vraiment. Montrez-vous moins prétentieux et ne maniez pas l'ironie à tout propos.
Poisson.
Alors pour le dernier, c'est le poisson. En couple, votre sensibilité pourra provoquer des tensions. Maîtrisez vos émotions. En argent, pour l'argent, je sais pas comment on dit, n'hésitez pas à demander un rendez-vous à votre banquier. Votre nombre, votre numéro chance, 831.
Ouais, c'est beau, c'est une signification.
Ouais, c'est, ça m'est arrivé ce matin, comme
d'accord.
Ça, au réveil.
D'accord, on s'en fout. Alors... Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit son?
Vous aimez bien? Si, moi je suis d'accord. Ouais.
C'est parti pour une petite musique. On s'écoute tout de suite Arctic Monkeys avec Crying Lighting.
Oui, c'est trop
ça,
bien.
Ça déménage. Et nous, on déménage. Allez,
merci Stéphane.
Bisous. Et à tout à l'heure sur ma radio.
Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Chest out like you never lost a war.
Our pastimes consisted of the strange, twisted and deranged. I ate that little game you had called crying lightning.
Punkies.
Ma radio.
De retour pour continuer cette superbe soirée avec une chronique littéraire présentée par Raphaël. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'un auteur royal.
La chronique littéraire.
Oui, alors ce soir, je ne vais pas vous parler d'un livre en particulier, mais d'un auteur que j'admire depuis plusieurs années déjà, et dont je pense qu'il est inutile de le présenter tellement son nom est devenu célèbre. Je vais vous parler du roi du suspense et de l'épouvante, j'ai nommé Stephen King. Alors Stéphane, tu as déjà lu un de ses livres ou vu une de ses adaptations ?
J'attendais que tu m'éclaires dessus avec tes talents de lectrice, enfin de chroniqueuse littéraire. Mais il a un très beau prénom, il faut le dire.
Exactement. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Stephen King est un grand écrivain et il a plus de 36 de ses livres qui ont été adaptés à l'écran. Donc si jamais tu n'aimes pas lire, tu peux toujours regarder le soir devant ta télévision. Et moi, personnellement, une de mes étagères lui est dédiée puisque j'en fais la collection. Et oui, de Carrie à Marche ou Crève, en passant par La Ligne Verte, Shining, Nuit Noire, Étoile Morte ou encore Le Talisman, j'aimerais avoir le temps de tous les lire. Stephen King le dit lui-même. Je crois que la lecture est une chose extraordinaire parce que ça nous permet de vivre plus de vie que celle que nous vivons nous-mêmes. On peut avoir l'expérience de beaucoup de réalités. Eh bien, j'aimerais pouvoir le remercier de nous offrir toutes ces réalités dont l'imagination semble sans limite.
Eh ben, il nous écoute. Il t'a
entendu. J'espère. Stephen King, je t'aime. Légende de la littérature, ses œuvres se sont vendues à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde et pour lesquelles il a été reconnu avec plus de 40 récompenses, dont 11 prix Bram Stoker, 5 prix Locus ou encore 6 prix British Fantasy. Alors certes, on ne l'arrête plus d'écrire et certains pourraient lui reprocher de vendre son nom plutôt que ses livres. J'ai lu une citation qui disait de faire attention aux livres où le nom de l'auteur était écrit dans une taille plus grosse que celle du titre. Et je pense que certaines maisons d'édition devraient prêter attention à ce genre de détails. Car bien qu'il ait prouvé à plusieurs reprises son génie, il nous est possible de ne pas aimer tout ce qu'il fait. Mais on peut lui reconnaître son style littéraire qui se caractérise par un suspense insoutenable, un sens de la narration, une imagination débordante, des dialogues parfois crus et violents, des citations qui vous restent en mémoire, ou encore des passages qui vous perturbent, voire qui vous hantent. Il n'hésite pas à choquer le lecteur et confronter le bien et le mal à travers ce récit. Et si j'aime autant ces livres, je dois cette admiration avant tout aux traducteurs qui font un travail juste merveilleux. C'est pourquoi j'aimerais prendre un instant pour remercier tous ces héros de l'invisible qui traduisent des livres et qui nous offrent la possibilité de découvrir des œuvres qui viennent des quatre coins du monde. Donc je tiens donc à remercier les traducteurs de Stephen King qui savent garder son style si particulier. Merci donc à Nadi Ghazi, William Olivier Desmond ou encore Watkins pour la traduction de Marche ou Crève que j'ai adoré et que je vous recommande fortement.
C'est beau de citer les traducteurs comme ça, c'est tellement rare.
Mais oui.
C'est le métier de l'ombre.
Oui.
Bah merci pour cette super rubrique et on va tous se ruer sur un bon Stephen King. Et tout de suite, c'est l'émission musique. Ok, l'émission musique et ce soir, c'est Loïc.
Alors bonjour Stéphane, bonjour à tous. Aujourd'hui bonjour. Nous allons vous parler de Richard Galliano, un accordéoniste qui nous vient de Cannes.
Ah ouais.
Eh oui.
Ah c'est parfait ça.
Donc Richard Galliano est connu pour ses reprises de classiques du jazz, ses reprises d'Edith Piaf ou encore de Mozart. Plus récemment, il a sorti un album d'ailleurs de reprises de Mozart. Et il est également connu pour ses compositions, avec par exemple le morceau Fou Rire dont nous allons écouter un extrait maintenant. Thank you. Donc, son album New Jazz Musette, qui est sorti en Italie le 18 octobre 2016, sortira en France et dans le reste du monde demain.
Demain ?
Donc, oui, demain, le 18 février.
À retrouver chez tous vos marchands de journaux ?
Peut-être pas les marchands de journaux, mais.
Ouais, disquaires.
Peut-être, ouais.
D'accord. Et, ben,
et donc. Donc cet album marque un point important dans sa carrière parce qu'il permet de fêter en fait les 30 ans de son premier album Spleen. Et donc on va tout de suite écouter un aperçu de cet album avec un extrait du morceau Waltz for Nikki.
J'aimerais bien t'inviter à danser Loïc.
Oh oui.
Ah t'inquiète, ce soir.
Donc vous pourrez retrouver Richard Galliano en live lors de sa prochaine tournée européenne en duo avec le contrebassiste Ron Carter durant le mois de mars.
Ça envoie vraiment du bois. La compo de l'équipe, c'est...
Ah, franchement, c'est génial. Moi, c'est mon coup de cœur du moment. Et donc du coup, vous pourrez le retrouver en Suisse, en Belgique, en France, aussi en Espagne.
Est-ce qu'il passe à Montbéliard ?
Non, il passe pas à Montbéliard. L'endroit le plus proche où il passe, il me semble que c'est soit Bâle ou Genève.
Ah ouais.
En France.
Ça vaut le trajet.
Oui, ça vaut le trajet. Je pense que ça vaut largement le coup. Et on va terminer avec un extrait du morceau Lorita. Donc voilà, c'est tout pour Richard Galliano. Je sais pas ce que t'en as pensé, Stéphane.
Honnêtement, gros coup de cœur. Je voulais dire que j'aimais pas parce que je t'aime pas. Mais non, je rigole. Mais du coup, je suis obligé de dire que j'aime bien parce que honnêtement, c'est tellement beau l'accordéon. Je m'attendais vraiment pas à ça de ta part en plus.
Eh bah oui, bah c'est comme ça. Hein. Bah je suis content que ça t'ait plu et puis j'espère que ça aura plu aux autres auditeurs de la radio. Et puis on va enchaîner maintenant avec un live du groupe Youless. Que nous avons aujourd'hui dans nos studios.
Super.
They sentenced me to 20 years of boredom. For trying to change the system. From within, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. I'm guided by a signal. Take Manhattan, then we take Berlin.
other way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First we take Manhattan, then we take Berlin. Practiced every night, now I'm ready. First we take Manhattan, then we take Berlin.
Et c'était First We Take Manhattan, et on enchaîne tout de suite avec un deuxième morceau.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. If you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. And if you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. Please, please, I'm your man.
feet and a howl at your beauty like a dog in heat and a claw at your heart and a tear at your sheet. I said, please, please, I'm your man. I'm your man. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. If you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man.
Et voilà, c'était Youless, c'était vraiment super, je sais pas ce
excellent,
que t'en penses,
excellent live, j'ai adoré.
Et bah du coup on va les inviter à nous rejoindre pour une petite interview.
Ouais super, ça va être super sympa de voir un peu les rencontrer et puis en apprendre un peu plus sur leurs influences, leurs choix artistiques, le groupe en lui-même et puis voilà, avoir un échange, c'est un moment assez privilégié, je suis content.
Et bah moi aussi je suis content.
Voilà, du coup ils nous rejoignent. Bonsoir.
Bonsoir.
Installez-vous. Merci Paulin pour la technique son.
Bah de rien.
C'était très bien mixé, je trouve. Enfin, c'est un avis personnel.
Bah merci, ça fait plaisir.
Et voilà.
Ouais, bravo, merci.
Merci. J'ai juste essayé de
faire mon mieux. Bah, voilà, asseyez-vous, installez-vous.
Merci.
Donc, vous êtes bien le groupe Youless, comme c'est annoncé plus tôt, c'est bien ça, je me trompe pas?
Exactement.
Eh bah super, du coup, bah, on a quelques petites questions à vous poser.
Mais allez-y donc.
Donc, bah, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique? Comment vous avez commencé? Un peu votre histoire, quoi.
Qu'est-ce qui nous a... Alors là, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qui nous a... Sans doute énormément de choses. Nos parents étaient très amateurs de musique, donc je pense que ça a certainement dû jouer. On a été élevés dans un environnement où on écoutait énormément de musique, puisque avec Bertrand, nous sommes frères.
Ah, c'est important de le dire.
C'est important de le dire. Donc, on a été élevés dans la même maison, avec les mêmes disques. Et voilà, déjà c'est ça. Et puis après, se retrouver des émotions que la musique nous procure, je pense, hein, tout simplement. Déjà en tant qu'auditeur. Et puis après, bah, voilà, c'est essayer de transmettre ça avec notre musique à nous, quoi. Voilà.
Et du coup, comment vous pourrez qualifier un peu votre musique, donner peut-être un genre et puis citer quelques références qui vous ont vraiment influencé, vos influences principales?
C'est assez varié. On va dire qu'il y a beaucoup de musiques anglo-saxonnes qui nous ont influencés là-dessus, et assez populaire aussi, même si on écoute aussi pas mal de musiques indépendantes, mais... On a ce côté musique pop et musique voilà, dans le sens aussi populaire, avec des vraies chansons qui parlent aux gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre. Voilà. Et puis, des grosses influences. Alors, on parle de grand-père, hein, peut-être pour vous. Mais...
Arrière-grand-père.
Peut-être même arrière-grand-père, mais Leonard Cohen, dont on vient de jouer des titres, en fait évidemment partie. Très grandement. Et puis après, il y a aussi beaucoup de scènes actuelles qu'on écoute, hein. Les descendants de grands hommes comme Cohen, on en écoute plein, des groupes. On écoute beaucoup de musique. Alors,
Radiohead, par exemple, c'est un groupe qui nous a beaucoup marqué. En ce moment, bah, y a plein de groupes aussi qu'on écoute énormément, comme Falls ou... qu'est-ce qu'on écoute encore? Enfin, il y a Interpol ou enfin voilà, des groupes plutôt rock, un peu underground. Ouais.
Moi, c'est une autre époque après. Mais...
Oui. Toi, t'es plus jeune.
Non, moi, c'est vrai que quand ils ont commencé de faire de la musique,
t'es pas né en fait.
Bah, ouais,
il avait 9 ans.
Ouais, j'avais 9 ans. Voilà.
Tu rentres au collège, quoi?
Bah, j'écoutais Britney Spears.
Voilà.
Il y a des bons trucs.
Pas les mêmes références.
Ouais, comme quoi.
Il y a quand même des bons trucs à ça.
Plutôt influence pop rock, du coup.
Ouais.
Moi, j'ai vu qu'en 2014, vous avez sorti un album. Et du coup, je voulais savoir un peu plus si vous aviez des projets, des trucs à sortir, des concerts, des dates, des endroits où vous retrouvez, quoi.
Ouais, tout à fait. Nous sommes en 2014. 2014 là, oui c'est ça, 2013, non, je sais pas, je 2013, sais même pas, ouais,
je crois que j'ai la date quelque part.
C'est mieux la date que moi, je pense.
2014, 2014,
tout à fait, voilà. Moi, on peut pas faire mieux. C'est écrit en gros sur la première page.
L'album de reprise donc de Leonard Cohen, enfin c'est un album de Cohen qu'on a repris intégralement, c'est pas juste une collection de chansons. D'accord. Qui est sortie, et donc on fait à la fois des concerts en ce moment de ce spectacle là. Et aussi des concerts de nos chansons, nos propres chansons, qui sont pour le coup là pas encore sortis, puisque c'est des nouvelles chansons. L'album ouais. s'annonce plutôt en mars 2018, voilà, mais il y aura déjà des titres qui vont égrener avant, et ça va être plus électrique. Donc là, il y a un rendez-vous sur scène au Théâtre Granit à Belfort.
D'accord, quand ça
Le 30 mars.
Voilà, le 30 mars.
Pour un concert sandwich.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est concert sandwich.
C'est le temps de midi. Vous n'avez pas le temps d'aller au concert le soir. Alors le temps de midi, le Granit vous offre un concert et vous venez.
Et on
pouvoir...
achète son sandwich. Il y a même le traiteur là dans l'enceinte du Théâtre Granit.
Pour la place du repas. Super,
on achète son sandwich là et puis on va écouter le concert gratuitement. Voilà.
Voilà. Oh, c'est chouette. Un sandwich, un concert.
En général, ça marche assez bien. Je crois que c'est un concept qu'ils font très régulièrement. Et puis le 14 avril, on sera à l'Arche de Bétoncourt avec un quatuor à cordes donc et Antoine.
Excellent.
Et le répertoire de cet album autour de Leonard Cohen.
Voilà. Donc voilà, c'est super les deux rendez-vous. Ouais.
Donc ça, c'est une belle soirée, très riche. Et pas cher.
Du coup, d'où vous est venue en fait l'idée justement de faire un album de reprise, entre guillemets, vu que vous vous êtes vraiment approprié cet album de Cohen. D'où ça vous est venu cette idée-là? Et est-ce que vous aimeriez en refaire justement
Des reprises, oui, on aime bien ça. Après, on va refaire un album, je ne sais pas. Au départ, ça devait être un projet de scène, exclusivement. Et on a décidé d'en faire un album parce que les gens, après les concerts, venaient nous dire « Oui, mais on a pas les versions, on aimerait bien avoir vos versions des chansons de Cohen. » Donc, on a fini par faire le disque. Mais ce n'était pas un projet discographique. Mais faire des reprises sur scène, on en fera certainement encore. Après, un album de reprise, je crois qu'on n'en refera pas d'autres. On va préférer faire des... Voilà, plutôt nos chansons. C'est important aussi de défendre...
Ou éventuellement un album de reprise de Britney Spears.
Voilà, avec pour que tu puisses... Tes émotions d'adolescent. Ah,
j'achète directement.
Super, merci, super. Enfin, on a passé encore un super moment en live.
Ouais. Merci à vous.
C'est une super découverte pour moi, je pense, pour pas mal de monde aussi. Et peut-être le sandwich, peut-être...
On peut répéter les dates.
Alors, 30 mars au Granit, avec le sandwich, ouais. Et puis le 14 avril, le vendredi 14 avril,
Quatuor
avec
à cordes,
l'Aquatuor, Arche de Bourdoucourt.
D'accord,
belle soirée.
Merci, un mot de la fin, Loïc et Paulin.
On sera là pour le sandwich, carrément.
D'accord,
super. Bon, merci beaucoup à vous, et puis passez une agréable soirée à tous nos éditeurs aussi.
Merci beaucoup à vous aussi.
Merci à vous. Donc c'était la chronique musique. Maintenant je voudrais remercier toute l'équipe. Vous avez
non, je t'en prie. D'accord. On s'est beaucoup dit merci, c'est chouette. C'est...
Ouais, on se remercie beaucoup. Et tout de suite je voudrais juste que Romain vienne deux petites secondes parce qu'il a un message assez important par rapport au Resto du Cœur. Romain, vas-y.
Alors simplement, je prends deux petites minutes pour simplement dire que le 10, 11 et 12 mars, donc c'est vendredi, samedi, dimanche, il y aura la collecte nationale pour les Restaurants du Cœur. C'est une collecte qui peut être faite par absolument tout le monde, qui est composée d'un créneau de 2 heures par, on va dire, équipe de deux, qui est donc ces deux personnes qui seront chargées pendant 2 heures d'être à l'entrée des grandes surfaces et de récupérer un maximum de nourriture. Pour les personnes qui bénéficient, qui ont besoin des restaurants du cœur durant l'été. Voilà, donc simplement faire passer un petit message pour essayer de mobiliser un maximum de personnes. Merci Stéphane.
Ça serait cool ça, comme ça on pourrait bien manger nous les étudiants.
non, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais merci Romain pour ce message. Merci à tous, encore une fois des remerciements. Et à très bientôt pour une prochaine émission sur ma radio.
Ma radio.